Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Un peu partout dans le monde arabe, et d'abord en Irak, en Syrie, au Liban, on voit les convulsions qui ébranlent ces régimes et les souffrances des populations aggravées par les ingérences étrangères. La Libye est une autre poudrière à ciel ouvert et celle-ci se situe aux portes de l'Europe. La côte libyenne n'est qu'à 300 km de l'île italienne de Lampedusa. Un enfer pour migrants et réfugiés venus de tout le continent africain que la politique européenne cherche à bloquer sur place. Pour les Libyens eux-mêmes, une instabilité chronique, ensanglantée par les affrontements entre un gouvernement légal à Tripoli, à l'ouest, et l'homme fort de Benghazi, à l'est du pays, et autant de guerres par procuration pour les diverses capitales qui rivalisent d'ardeur à s'interposer sur le terrain et dans les chancelleries. Le russe Poutine et le turc Erdogan, d'abord, chacun soutenant en homme et en armes un camp différent, tout en affichant leur entente pour mieux imposer une sorte de condominium. Les autres acteurs, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite d'un côté, le Qatar de l'autre, sans oublier l'Algérie qui veut revenir dans le jeu, l'Italie, jalouse de ses intérêts dans son ancienne colonie, la France, qui s'efforce sans succès jusqu'ici de jouer au médiateur, et l'Allemagne, qui y parvient puisqu'une conférence internationale devrait avoir lieu à Berlin. Pourquoi un tel imbroglio? Quels enjeux économiques et sécuritaires dans un échiquier fragmenté par l'impuissance de l'ONU et les divisions des Occidentaux? Quel scénario possible pour une stabilisation de la situation? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Virginie Colombier, merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à l'Institut universitaire européen de Florence. Ali Ben Saad, professeur à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8. Shoshana Fine, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse aux séries de Sciences Po à l'Université de Liège et au German Institute of Global Studies, spécialiste des problèmes de migration. Je remercie particulièrement Sinan Ülgen d'être avec nous par téléphone depuis Istanbul. Sinan, vous présidez le centre de recherche EDAM. Nathalie Tocci, qui elle est à Rome et qui y dirige l'Institut des Affaires internationales italien. Et Igor Jurgens à Moscou. Par téléphone, bien sûr, président de l'Institut du développement contemporain. Virginie Colombier, expliquez-nous dans un premier temps l'état des lieux. La Libye, c'est un pays très vaste, pour partie désertique, et on a vu que ce conflit armé entre l'Ouest et l'Est, pour simplifier, s'est en fait aggravé tout au long de l'année dernière.
Disons que depuis 2011 et le renversement de Kadhafi, il y a eu une sorte toujours de situation de conflit latent dans le pays et avec des phases, des épisodes de violence plus ou moins intenses. Depuis avril dernier, on est entré dans une nouvelle phase de violence et d'escalade des combats qui s'est clairement intensifiée au cours des derniers mois, qui a été caractérisée finalement par peu d'avancées majeures sur le terrain, bien sûr à la suite de l'attaque menée par le général Haftar sur la capitale Tripoli, avec vocation selon lui de libérer la capitale et d'en prendre le contrôle. Donc il a lancé cette offensive au mois d'avril de l'année dernière. Il a été peu... cette avancée a été peu concluante, il n'a pas réussi à conquérir du terrain majeur. Il n'a pas réussi à retourner la population à Tripoli en sa faveur. Mais évidemment, la poursuite des combats pendant plusieurs mois ont eu un impact énorme sur le plan humanitaire, sur le plan du nombre de déplacés qui s'est accru dans la capitale et également des destructions considérables sur les infrastructures de la ville. Donc, parallèlement à cette situation, on a une situation où les interventions extérieures ont été croissantes. Et l'implication et l'ampleur de l'intervention des acteurs extérieurs s'est beaucoup accrue au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois.
Mais c'est bien à Tripoli, la capitale, donc qui est tout à fait à l'ouest du pays, que siège un gouvernement d'alliance nationale dirigé par Monsieur Al-Sarraj. Donc il y a quand même une trêve. Les deux parties en conflit, depuis le tout début de cette semaine, il y a un arrêt des hostilités pour le moment. Sur quoi pourraient porter les négociations qui devraient intervenir à Berlin ?
Alors, effectivement, on assiste à une relative accalmie sur le terrain depuis la fin de la semaine dernière, après l'annonce surprise, un peu d'une sorte de cessez-le-feu annoncé par les Russes et les Turcs conjointement, un peu à la surprise générale. La surprise générale également, ce cessez-le-feu tient globalement, même s'il n'est pas complètement respecté. On a eu une tentative dans la semaine de la part des Russes et des Turcs de conclure un accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire qui prévoirait des dispositions un peu plus précises, qui conclurait un accord entre les forces de Haftar et le gouvernement de Sarraj. Ce texte a été signé par Fayez al-Sarraj, mais il n'a pas été signé par le général Haftar. Et donc maintenant, on entre dans une nouvelle phase au cours de laquelle, a priori, la diplomatie allemande va essayer de construire cette relative accalmie sur le terrain et sur le cessez-le-feu qui plus ou moins tient pour essayer d'aborder un certain nombre de questions majeures qui sont des points de conflit entre les deux camps, mais surtout, et c'est là l'objectif de la conférence de Berlin qui est annoncée et qui devrait avoir lieu très prochainement, d'essayer de trouver un consensus entre les principaux acteurs extérieurs qui sont impliqués dans le conflit et qui ont joué un rôle croissant au cours des derniers mois. Donc la conférence de Berlin, initialement, devait viser à trouver un accord entre tous ces acteurs extérieurs sur un cessez-le-feu. Et surtout, essayer de trouver également un moyen de faire respecter l'embargo sur les armes dont on a...
Voilà, qui est joyeusement violé, un embargo qui a été...
Par les deux parties et par un certain nombre d'acteurs extérieurs.
Alors, Ali Ben Saad, précisément, expliquez-nous qui soutient qui. On comprend qu'il y a donc ce maréchal Haftar qui est à Benghazi, à l'Est, qu'il y a un premier ministre qui s'appelle al-Sarraj, qui lui est à Tripoli. Expliquez-nous qui soutient Haftar, déjà.
Autour de Haftar, il y a en fait la coalition la plus importante. Disons que les ingérences étrangères se sont structurées autour de la question de l'islam politique. On avait d'un côté donc le Qatar et la Turquie, mais le Qatar maintenant en fait est dans une position beaucoup plus discrète et intervient moins.
Alors donc, pardon, je vous interromps pour que l'on comprenne. Donc le Qatar et la Turquie qui eux soutiennent le gouvernement de Tripoli.
De Tripoli et qui promouvait, si je peux dire, l'islam politique. De l'autre côté, on a donc l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Initialement, c'est un peu un axe qui avait pour objectif une restauration autoritaire de la région après un peu le désordre créé par le printemps arabe. Mais ce rapport de force, le rapport de force entre les deux, a beaucoup changé, notamment grâce à la montée en puissance et aux pressions des pays du Golfe qui ont fait du terrain libyen un terrain prioritaire. C'est d'abord effectivement le Qatar qui, sous la pression des pays du Golfe, s'est un peu donc assagi dans sa politique d'intervention extérieure, mais c'est aussi la France qui a rejoint, si je peux dire, cet axe, qui a permis de bouleverser complètement le rapport de force.
La France a tenté une médiation, il y a eu une conférence à la Selle Saint-Cloud avec les principaux acteurs locaux, mais ça n'a pas abouti.
Je rectifie, il ne s'agit pas de médiation. Oui. Parce que moi, je pense que toutes ces activités diplomatiques, le seul gagnant en a été Haftar, qui est passé du statut de seigneur de guerre à un homme politique fréquentable. Et pendant toutes ces opérations diplomatiques de réhabilitation de Haftar, celui-ci ne se gênait pas d'avancer ses pions sur le terrain et de les faire avaliser par ce type de rencontre.
Et Haftar, qui a repris la ville de Sirte au début du mois de janvier, Sirte qui avait été longtemps, il faut le rappeler, et ça explique aussi l'obstination française, un fief de Daesh, l'État islamique, les antennes de l'État islamique, s'était installé en Libye, et puis la Libye a une très longue frontière commune avec le Mali, donc on voit bien aussi le foyer du Sahel.
C'est aussi un très faux prétexte, parce que Daesh a été bouté dehors par les seules forces libyennes, par notamment les brigades de Misrati, qui viennent d'être chassées justement de Sirte par les forces de Haftar. Et en fait, je disais ce qu'a apporté la France, elle a apporté une grande ingénierie militaire au camp de Haftar. La preuve, ce sont ces armes sophistiquées qu'on a découvert pas n'importe où, mais dans le PC de commandement. Oui. Destiné à attaquer la ville de Tripoli, etc. Et je pense que là, il y a une grande ambiguïté parce que la question pour les pays du Golfe, en fait, il ne s'agit pas seulement d'une restauration autoritaire, il s'agit de combattre toute dissidence. Et en cela que la France s'embarque, si je peux dire, derrière cet aéropage est très préoccupant.
Monsieur Bensan, je vous interromps pour partir téléphoniquement parlant à Istanbul, rejoindre Sinan Ulgen. Bonjour, Sinan. Oui, mais vous restez en ligne avec nous et je reviendrai vers vous. Ne vous en faites pas. Mais il est un fait que l'acteur qui a fait véritablement éruption avec des intentions de plus en plus évidentes sur la scène libyenne, c'est maintenant le président turc Erdogan. Donc bonjour Sinan Ulgen. On a vu que le Parlement turc a voté le 2 janvier dernier un envoi de troupes en Libye. Il s'agirait surtout, semble-t-il, de mercenaires utilisés jusqu'ici par Ankara en Syrie. Pourquoi un tel pari de la part de M. Erdogan ?
Oui, alors premièrement, je pense qu'il faut souligner que la Turquie a toujours eu des relations prioritaires avec la Libye. Il y a donc une motivation historique, mais aussi économique. Ce qui a changé, par contre, ça a été une étape critique, ça a été l'accord au mois de décembre dernier entre la Turquie et le gouvernement de Tripoli. Concernant la délimitation des zones maritimes. Ceci est un accord important pour la Turquie parce qu'il y a un différend assez critique au sein de la Méditerranée orientale, d'un côté entre la Turquie et maintenant la Libye, et de l'autre côté entre la Grèce, Chypre et l'Égypte.
Et pourquoi ? Parce qu'il y a des gisements de gaz tout à fait importants. Et effectivement, cet accord a provoqué la colère des autres pays riverains.
Oui, mais cet accord a aussi donné un soutien à la perspective diplomatique de la Turquie concernant comment cette zone importante en ressources de gaz peut être délimitée. Mais par contre, maintenant, il apparaît que du côté du gouvernement de Tripoli, le quiproquo de cet accord a été une demande auprès du gouvernement turc pour un soutien militaire important. Et de ce fait, le gouvernement a passé une loi au sein du Parlement au début de cette année, le 2 janvier donc, pour commencer cette démarche militaire en Libye de façon à soutenir le gouvernement de Al-Sarraj. L'objectif de la Turquie, ce n'est pas d'aider Al-Sarraj à conquérir le territoire libyen, mais l'objectif, si vous voulez, stratégique ou politique, c'est de donner un soutien suffisant pour Al-Sarraj pour qu'il demeure au pouvoir et de cette façon de forcer l'opposition militaire Haftar à accepter d'abord un cessez-le-feu et ensuite une négociation politique concernant le futur de la Libye.
On a vu à quel point le président turc et le président russe, Vladimir Poutine, affichent volontiers leur entente personnelle, même si en Syrie en particulier, ils sont plutôt à front renversé, et là, ils le sont aussi. est-ce que, puisque il y a des mercenaires russes qui soutiennent le maréchal Haftar, la fameuse compagnie Wagner que l'on a vue à l'œuvre notamment en Syrie et aussi en Centrafrique d'ailleurs, Sinan, comment s'explique cette espèce de condominium russo-turc qui rappelle des souvenirs historiques alors qu'il y a eu historiquement justement cette rivalité entre l'Empire ottoman et la Russie des tsars?
Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est plutôt l'inefficacité de l'Europe, parce que finalement, comme vous l'évoquez bien, cette coopération entre la Turquie et la Russie n'a pas ses sources dans l'histoire. Au contraire, ce sont ces deux pays traditionnellement ont été des rivaux. Mais par contre, le fait que l'Europe, surtout par les institutions européennes ou même les pays européens, n'ont pas eu la volonté ni la capacité d'investir militairement dans la région. Et ce sont les pays qui, finalement, ont franchi cette étape-là, qui ont maintenant une influence qui va au-delà de l'influence de pays européens. Et c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de la Russie. C'est pourquoi je pense qu'on voit émerger ce soupe de coalition un peu en dehors de ce qu'on a vu dans le passé.
Merci mille fois, Sinan Nungel, d'avoir été avec nous par téléphone depuis Istanbul. Nous partons maintenant pour Moscou, vous rejoindre, Igor Jurgens. Bonjour. Vladimir Poutine continue d'apporter la preuve qu'il est véritablement devenu le maître des horloges au Moyen-Orient en s'impliquant de plus en plus fortement en Libye.
Par les événements qui sont commencés en Syrie, Il est maintenant, M. Poutine, il est un personnage clé dans les situations quand tout le monde veut l'assistance de la Russie dans une manière ou dans l'autre. Et Haftar, maréchal Haftar, qui était diplômé de l'Académie des Blindés de Moscou, je crois que 1986, quelque chose comme ça, il était notre ami. Ensuite, il était notre ennemi quand il a vécu aux États-Unis pour 20 ans de l'année avec la coopération avec le CIA. Donc, c'est un personnage assez difficile, mais je crois savoir qu'il a acheté suffisamment de l'équipement militaire pour demander la protection ou participation de groupes Wagner dont vous avez déjà mentionné dans ce conflit. Je ne crois pas que Poutine il a beaucoup de sympathie pour Haftar ou Sarraj, mais effectivement, il est lui avec son partenaire temporaire, M. Erdogan, il est intéressé dans la stabilité dans la région, si ça sera possible.
Igor Jurgens, quelle est la justification affichée par le Kremlin s'agissant de cette implication directe, puisqu'il y a même eu au tout début de cette semaine une réunion à Moscou qui a un peu tourné court, mais on voit bien à quel point le Kremlin s'implique. Quelle est la justification? C'est la lutte contre l'islamisme, l'extrémisme islamiste?
C'est plus ou moins tout ça. C'est stabilisation de la région du Moyen-Orient, dont la Russie est. Nous avons les frontières directes avec l'Iran et les autres. Donc, la justification est d'établir la paix dans la région ou d'essayer d'établir la paix dans la région dont est tellement tourmentée actuellement. Et en plus, les liens traditionnels avec certaines forces, certains groupes à Libye, à partir de période Kadhafi, quand Kadhafi et l'Union soviétique étaient dans les relations assez étroites, avec l'aide militaire, avec la procuration de l'équipement militaire, avec l'aide dans la construction de gisements de gaz et de pétrole. Donc, la Russie a toujours été très intéressé d'être présent en Méditerranée. Maintenant, la Russie est déjà directement impliquée dans les...
Merci mille fois.
Par cette
Oui, pardon, vous avez perdu brièvement. Une dernière question, Monsieur Jürgens. Jusqu'à quel point est-ce que le Kremlin bénéficie des incertitudes ou parfois des incohérences de la politique américaine et toujours de cette volonté affichée par l'administration Trump, comme d'ailleurs par l'administration Obama, de se retirer du Moyen-Orient?
Cette vide est nécessité imposée sur M. Poutine. Elle a commencé cette escapade en Syrie dans les, vous vous souvenez, dans les, après cette phrase de M. Obama de ligne rouge. Ligne rouge, il a insisté M. Obama en espoir qu'il était, il sera invité dans G8 à nouveau avec cet désarmement chimique. Et peu à peu, il a commencé d'être un personnage, et nous, la Russie, un pays clé dans les régions. Donc maintenant, il est très intéressé d'un côté, et de l'autre côté, c'est un peu tard de sortir.
Merci mille fois, Igor Jürgens, d'avoir été avec nous en direct de Moscou pour nous éclairer sur la vision du Kremlin. Sochana Fine, merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes, vous, à Paris. Vous travaillez au CERI, vous êtes une spécialiste des questions migratoires. La Libye est un très ancien pays de transit migratoire, ne serait-ce que parce que c'est un pays qui a vécu sur une économie de rente pendant très longtemps, et les seuls qui faisaient tourner l'économie, en particulier sous le règne de Kadhafi, c'était déjà des immigrés. Et on se souvient que leur sort, à l'époque, n'était pas très joyeux non plus. Aujourd'hui, évidemment, c'est pire. Commençons par là, même si les chiffres sont difficiles à estimer, mais combien de migrants, migrants économiques, réfugiés politiques, seraient aujourd'hui bloqués en Libye?
En effet, comme vous avez dit, la Libye est une pays d'immigration depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, vu la situation sécuritaire, on imagine que tous les migrants qui se retrouvent en Libye ont l'espoir de rejoindre l'Europe. On n'a pas de chiffres exacts pour le nombre de migrants en Libye. On sait qu'on a à peu près 5000 dans les centres de détention formels. Après, on
les centres officiels, donc.
Les centres officiels. Après, il y a un nombre très important de migrants dans le centre informel. On peut en revenir. Il y a certaines estimations qui disent qu'il y a environ 750 000 migrants qui se retrouvent en Libye aujourd'hui.
Il y a les centres officiels, il y a aussi évidemment des centres dits informels. On se souvient de ces images terribles de CNN, c'était en 2017 me semble-t-il, où on voyait sinon des ventes d'esclaves, mais en tout cas une espèce de mise aux enchères du travail humain dans ces centres dits informels. Et puis il y a le rôle des gardes-côtes, puisque le rêve de tous ces gens, c'est évidemment de traverser la Méditerranée, et hélas la Méditerranée est aussi devenue un cimetière marin.
Absolument. Et ces problèmes de torture, d'extorsion qui se trouvent dans les centres formels comme dans les centres informels sont liés avec les politiques migratoires européennes. Dans le sens où c'est l'Union européenne qui finance les gardes-côtes pour qu'ils ramènent les migrants qui essaient de partir vers la Libye.
Et, oui, il y avait même eu une affaire de livraison de bateaux par la France.
Oui.
Mais là, les ONG s'en sont émues et je crois que ces livraisons ont été annulées.
C'est ça. Mais d'autres pays de l'Union européenne et la Commission européenne continuent de financer, d'équiper les gardes-côtes libyens. Donc, les gardes-côtes ramènent les migrants en Libye. On sait que seulement une proportion mineure de ces migrants se retrouvent dans les centres formels. Donc, un nombre important sont envoyés, on ne sait pas où, peut-être pour l'esclavage, dans les centres informels. On sait qu'il y a une pratique systématique d'extorsion où, et ça arrive surtout avec les migrants érythréens, donc les trafiquants, les milices, ils appellent la famille, ils torturent ces personnes sur les lignes, sur les téléphones, jusqu'à la famille paye une rançon, et puis ces migrants sont après renvoyés dans les centres formels avant d'être potentiellement libérés pour essayer de rejoindre l'Europe.
Tout ça, évidemment, accompagnant une corruption généralisée à tous les étages, si j'ose dire, y compris et au niveau donc au niveau des migrants. Nathalie Tocci, bonjour. Vous dirigez à Rome l'équivalent de l'IFRI, donc l'Institut des Affaires Internationales Italiennes. Merci mille fois d'être avec nous. Jusqu'à quel point la question des migrants, je rappelais en introduction que oui, l'île de Lampedusa au large de la Sicile n'est jamais qu'à 300 km des côtes libyennes, jusqu'à quel point la question des migrants est aujourd'hui pour l'Italie la question prioritaire qui justifie ses préoccupations, son intérêt, ses tentatives de calmer la situation en Libye.
Bon, c'est évident que la question migratoire a toujours été une des questions prioritaires pour l'Italie en regardant la Libye. Et ça, en fait, c'est une des raisons qui explique pourquoi, parce que l'Italie a toujours vu avec un œil de regard le côté Tripoli, parce qu'en fait la route migratoire, la route du Méditerranée central passe pour la Tripolitaine et pas pour la Cyrénaïque.
Alors je vous interromps parce que nous n'avons pas tous une connaissance de la géographie aussi précise que vous autres en Italie. Il faut rappeler que la Libye est une ancienne colonie italienne hein, de 1911 à 1945, dont la Cyrénaïque, c'est toute la partie qui est à l'est, c'est d'ailleurs là où sont les exploitations pétrolières, et la Tripolitaine, donc c'est l'ouest du pays. Pardon Nathalie, je vous ai interrompu.
C'est ça. Alors c'est pour cette raison-là que en fait, comme je disais avant, l'Italie a toujours regardé avec un œil de regard surtout sur la partie ouest. Ça en fait explique aussi l'accord que l'ancien ministre de l'Intérieur Marco Minniti du gouvernement Gentiloni a réussi l'accord qu'il a fait avec divers milices dans la Tripolitaine. Et en fait, si on regarde le flux migratoire à partir de 2018 jusqu'à maintenant, et on fait la comparaison avec le flux qui avait avant, et on note qu'il y a une diminution très 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 relevante. Alors c'est évident que ça c'est pas la seule raison, mais c'est évidemment une des raisons principales qui explique la position géopolitique plus grande de l'Italie concernant la Libye.
L'autre raison est évidemment liée au pétrole, puisque l'ENI, la compagnie pétrolière italienne, exploite les gisements libyens. Je crois que la Libye reste la première puissance pétrolière d'Afrique, avec des réserves importantes.
Exactement. L'énergie, c'est la deuxième, le deuxième pilastre de la politique italienne en Libye. Mais en fait, l'énergie maintenant joue un rôle un peu différent, dans le sens que oui, il y a toujours les ressources libyennes qui, en fait, les installations de l'ENI en Libye qui encore regardent surtout la partie sud et la partie ouest du pays. Mais maintenant, l'ENI qui continue à être présent en Libye a fait des investissements très 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 importants en Égypte. La découverte de Zohr il y a 4 ans maintenant, explique pourquoi en fait il y a une Italie qui commence à changer un peu sa position vers la Libye. Donc si l'Italie continue à être très proche de Tripoli, mais on l'a vu dans le dernier jour, qu'il y a une majeure ouverture aussi au regard de la Cyrénaïque et donc d'Haftar.
Et donc d'Haftar.
Et c'est ça, de l'offensive d'Haftar. Parce qu'en fait, Haftar, comme on sait bien, est très proche de l'Égypte. Et cette relation toujours plus proche entre l'Égypte et l'ENI explique parce que l'Italie maintenant est dans une situation d'une ambiguïté qu'on n'a jamais vue en parlant de Libye.
Alors Nathalie, restons sur cette ambiguïté quelques minutes. Restez en ligne avec nous si vous le voulez bien, le temps que Hamdam Mostafavi, bonjour Hamdam, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. Brossez-nous donc, grâce à ce que vous avez trouvé dans la presse internationale, le portrait de ces deux personnages qui s'opposent maintenant depuis plusieurs années. Commençons donc par le Premier ministre Sarraj, un gouvernement, il faut bien le dire, reconnu par la communauté internationale.
Oui, tout à fait, et mené par l'homme politique libyen de 59 ans, depuis déjà 4 ans. Alors, Fayez al-Sarraj, il vient d'une famille libyenne aisée de Tripoli, une famille déjà très impliquée dans le champ politique, puisque son père était ministre à l'époque de la monarchie libyenne, et c'était aussi un des pères fondateurs de la Libye indépendante, nous raconte le quotidien émirati de National. Fayez al-Sarraj a fait pour sa part des études d'architecture et il a eu une longue carrière à la fois de fonctionnaire et d'homme d'affaires, raconte le quotidien. Élu député en 2014, c'est donc lui qui est choisi en 2015 par la mission de l'ONU pour mener le gouvernement d'union après la guerre civile. En 2016, il parvient à libérer Sirte de l'emprise de Daesh, mais cela est loin de marquer la fin du chaos en Libye et al-Sarraj a notamment du mal à trouver une réponse face à l'offensive menée par le maréchal Haftar.
Donc le fameux maréchal Haftar qui essaye toujours de pousser son avantage militaire, même si on espère que la trêve conclue au début de cette semaine, pour le moment, continue de tenir.
Oui, tout à fait. Et le militaire libyen s'est fait d'ailleurs remarquer d'abord en tant qu'officier proche de Muammar Kadhafi, originaire comme lui de Sirte. Et il a pris part au putsch qu'il avait installé au pouvoir en 1969, rappelle le quotidien britannique The Guardian. Sa proximité avec la Russie remonte aux années 80, où il avait été envoyé à Moscou pour y être formé auprès de l'armée soviétique. En 1987, il tombe en disgrâce auprès du dictateur Muammar Kadhafi et passe les 20 années qui suivent en exil aux États-Unis, dont il revient en 2011 pour participer au soulèvement contre Kadhafi. En 2014, il est à nouveau sur le devant de la scène libyenne en fondant sa propre armée, l'armée nationale libyenne autoproclamée. En avril 2019, il lance donc son offensive militaire depuis son fief dans l'est de la Libye et s'empare entre autres des champs pétrolifères stratégiques dans le sud. The Guardian note que ses détracteurs l'accusent d'user de méthodes brutales pour écraser la dissension dans des villes comme Derna ou Benghazi et de protéger des officiers recherchés pour crimes de guerre par la Cour pénale internationale. Pour le quotidien britannique, il cherche à ramener la stabilité dans le pays plutôt que la démocratie.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Retournons à Rome, vous rejoindre Nathalie Tocci, merci d'être restée avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'Institut italien des affaires internationales et on sait à quel point, les rapports entre Rome et Paris se sont aigris à plusieurs reprises, et notamment à cause de la Libye, où en fait l'Italie reproche à Emmanuel Macron de s'arroger un rôle qui, du point de vue italien, ne revient pas forcément à la France, mais revient d'abord à l'Italie.
Oui, bon, je dirais qu'en fait la Libye, c'est sans doute un des facteurs plus importants qui explique la tension entre Paris et Rome, mais c'est pas la seule raison. En fait, il y a malheureusement beaucoup de raisons qui, dans le domaine des investissements ou de la migration ou des différentes positions vers l'Union européenne et les États-Unis ou qui en fait explique la tension entre les deux. Mais c'est sans doute que la Libye, c'est un des facteurs plus importants, parce qu'en fait l'Italie a toujours vu la Libye comme le pays plus important à nos intérêts nationaux. Comme je disais avant, intérêts qui ont à quoi faire avec la migration, avec l'énergie et avec la sécurité, bien sûr. Les Italiens croient qu'ils comprennent bien la Libye, ils comprennent bien la dynamique en Libye aussi parce que en fait on est présent dans le territoire depuis beaucoup de décennies. Donc, quand on voit un protagonisme français, et c'est pas le problème, c'est pas en fait un protagonisme français, mais quand il y a un protagonisme français que l'Italie considère qui n'a pas été consulté avec les Italiens. Ouais. En fait, l'effet, c'est d'augmenter la base des tensions qui déjà existent. Mm-hmm. Et comme on a vu il y a un an et demi, on menait en fait le risque d'une rupture de relations diplomatiques, ce qui est assez incroyable entre deux pays membres de l'Union européenne et de
l'OTAN. Oui, avec des liens historiques si anciens, mais enfin on a vu quand même que Rome et notamment l'actuel ministre des Affaires étrangères, Monsieur Di Maio, issu du mouvement 5 étoiles, qui n'a pas franchement une expérience diplomatique très poussée, on a vu que les tentatives de Rome se sont soldées par un fiasco.
Oui,
à propos de la Libye, on parle de la Libye.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est pas seulement les tentatives de Rome, c'est les tentatives de Rome et de Paris. Je disais des Européens en général. Parce qu'en fait, le problème, le vrai problème en ce moment-là, quand on parle de Libye, est que le jeu est fait par les acteurs qui sont présents sur le territoire. Et malheureusement, c'est Poutine, c'est Erdogan, c'est pas les Européens. Parce qu'en fait, nous comme Européens et nous comme Italiens, mais aussi le Français, la question qu'on doit répondre est si on veut jouer la partie politique-diplomatique, on doit être prêt à mettre des ressources consistantes dans le pays, ressources qui sont militaires et après qui seront économiques aussi.
Nathalie Tocci, merci mille fois d'avoir été avec nous par téléphone depuis Rome. Et je retourne vers vous, Ali Ben Saad, parce qu'il faut quand même en revenir à cette intervention franco-britannique en 2011 pour déloger donc Kadhafi à l'époque. Et ça a été le début, en fait, de ce bouleversement, pour ne pas dire de ce chaos libyen où il n'y a jamais eu vraiment de transition politique.
Oui, il n'y a jamais eu de transition politique et les interventions extérieures arguent du fait de l'échec du politique et de la prédominance de la violence, mais en fait le politique a été évacué dès le départ, finalement dans ce pays-là, il n'y a pas eu de transition, parce que ce sont les élites issues de l'ancien régime qui ont très vite capté tout le mouvement d'insurrection. Je vous donne un exemple, le CNT, le Conseil National de Transition, était composé d'anciennes élites. Son président Mahmoud Djibril était ministre de la Justice bien après le soulèvement. Son responsable militaire Abdel Fattah Younes était ministre de l'Intérieur. Mahmoud Djibril, qui est un peu le président du comité exécutif du CNT, était ministre de l'Économie, etc. Et ces gens-là,
donc les élites de l'époque Kadhafi.
Exactement, qui vont pousser à ce que, selon la formule célèbre du prince de Salina, changer pour que rien ne change. Et c'est eux qui vont pousser rapidement à des élections. Ils auront l'aval, évidemment, des islamistes qui, un peu encouragés par ce qui se passait en Égypte et en Tunisie, où ce sont des islamistes qui avaient pris le pouvoir, vont pousser à des élections contre l'avis des activistes qui, eux, s'y opposaient, parce que pendant 40 ans, il n'y a eu aucune activité politique ou associative. Et finalement, avec l'aide de la France et du Qatar, ils imposeront ces élections. Ils les imposeront, mais avec une régression, même sur ce qui avait été prévu. Par exemple, il était prévu un quota de 10% pour les femmes, on va revenir là-dessus. Il était prévu de ne pas permettre des partis politiques sur des bases religieuses, etc. On va revenir là-dessus. Mais surtout, on va privilégier une prédominance locale, dite indépendante, et 60% des députés vont être élus sur une base locale, c'est-à-dire qu'en fait
Donc, en fait, sur une base tribale, parce que ça reste quand même un pays avec des différences assez fortes entre les régions, mais où les tribus et les changements d'alliance, d'ailleurs, assez fréquents, s'appuient, en fait, sur une tradition ancienne.
Non, en fait, si vous voulez, le fait tribal va être réactivé, parce que, en fait, surtout quand on propose des élections députés indépendants sur une base locale, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est faire fonctionner les réseaux notabilières parce que les anciennes élites, c'était elles qui maîtrisaient ces réseaux notabilières et ces réseaux notabilières vont réactiver, justement, des relations tribales, etc. Et on va aboutir, dès le départ, sur un parlement qui est dominé par les anciennes élites, ce qui va contrarier, bien sûr, les nouvelles élites qui ont surgi pendant la Révolution, mais surtout, ça va être un parlement fragmenté, disparate, sur la base de petits intérêts étroits, et c'est ce qui va engager, dès le départ, la Libye sur la voie de l'ingouvernabilité, difficile de former un gouvernement, de désigner un premier ministre, etc. Et c'est là où les islamistes, etc., ne vont pas trouver face à eux des institutions qui peuvent leur résister. Et c'est l'interstice qui est offert, évidemment, aux seigneurs de guerre.
Et alors restons un moment, si vous le voulez bien, sur le rôle des islamistes radicaux, parce que on voit que c'est en fait la raison pour laquelle la Turquie d'Erdogan, qui est proche, sinon qui fait partie des frères musulmans, comme le Qatar qui soutient les frères musulmans, sont donc du côté de Tripoli, du gouvernement légal. Mais il y a aussi des salafistes adeptes de ce saoudien qui s'appelle Matkali. Enfin, il y a là aussi une fragmentation religieuse extrémiste qui a pu en particulier inquiéter la France sous le choc, il faut quand même le rappeler, puisque hélas on en commémorait le 5e anniversaire il y a quelques jours, la France sous le choc des attentats de 2015. Donc jusqu'à quel point est-ce que le phénomène de l'islamisme radical continue de fermenter et de compliquer encore la situation en Libye?
Alors d'abord, il faut faire une rectification. La Libye, ça peut surprendre vos auditeurs, est le pays où les islamistes ont le moins d'ancrage partout dans le monde arabe. Et la preuve, c'est qu'à chaque élection, ils ont eu de moins en moins de représentants, mais parce que c'est une société très conservatrice. Et donc, l'islam politique, si je peux dire, ne peut pas rentrer, si je peux dire, dans le débat politique. Et en fait, c'est l'instabilité qui a conduit à cette surreprésentation, si je peux dire, des islamistes et des radicaux. Quand je reviens, je reprends la question, par exemple, de la Turquie. La Turquie, elle n'est pas tellement mue par l'islam politique. Il faut rappeler que pendant l'insurrection de 2011, la Turquie a soutenu jusqu'à la dernière minute Kadhafi, alors qu'elle avait soutenu les islamistes en Tunisie et en Égypte, en Libye, non.
Parce qu'il y avait des intérêts économiques turcs extrêmement importants.
Elle avait des intérêts. C'est le troisième marché international pour les entreprises turques. Et en fait, justement, c'est ce faux alibi qui a fait que beaucoup de puissances, y compris la France, etc., se coalisent derrière Haftar, alors que Haftar non seulement ne combat pas seulement l'islam politique, puisque en fait il identifie tous ses ennemis à l'islam politique, ouais, et que paradoxalement il attaque Tripoli alors qu'elle venait de se débarrasser de ces islamistes radicaux depuis 2 ans, mais lui aussi a ses propres islamistes, que sont ces neutralis, qui sont supposés des salafistes quiétistes, ne basculant pas sur la violence, mais qui, comme on le voit en fait, sont eux aussi dans la violence des deux côtés. D'ailleurs, c'est un message pour nous ici en France où on promeut un salafisme quiétiste qui serait un paravent vis-à-vis de la violence. Mais c'est un salafisme qui promeut un discours de haine, etc. Et le passage à la violence est vite arrivé. Et donc, d'ailleurs, ces maîtres Ali ont réussi à imposer dans l'espace politique et sociale de Haftar, qui se prétend anti-islamiste, un rigorisme encore plus grand.
On voit bien Ali Ben Saad à quel point l'Orient est compliqué, pour reprendre une formule célèbre et ancienne. Mais retournons à Florence, vous rejoindre Virginie Colombier, parce que ce morcellement de l'échiquier libyen que vient de nous décrire Ali Ben Saad, avec ses composantes à la fois politiques, mais aussi tribales et religieuses, ça correspond aussi à l'impuissance totale des Nations Unies. Hassan Salamé, donc, qui est un diplomate libanais à l'origine, est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies depuis 2017. Et on voit, il le dit lui-même d'ailleurs, qu'il est totalement dépassé et que les États, membres en particulier du Conseil de sécurité, n'appliquent pas leur propre résolution.
Alors, la difficulté pour le représentant des Nations Unies a été dans un premier temps effectivement la fragmentation du pays. Le fait qu'il fallait essayer de rassembler autour d'une même table et de trouver un accord entre des groupes, des factions qui ont des intérêts très divergents et sur des questions éminemment politiques sur lesquelles il n'y a jamais eu de dialogue et de véritable discussion politique depuis 2011. Comme le faisait remarquer Ali Ben Saad, on s'est rapidement engouffré dans la brèche élection en pensant que distribuer les positions allait régler un certain nombre des problèmes et des conflits majeurs qui étaient entrés dans la société depuis déjà plusieurs décennies. Ce qui rend aujourd'hui la tâche de Hassan Salamé beaucoup plus compliquée, c'est cette internationalisation du conflit qu'on a mentionné à plusieurs reprises et le fait qu'au-delà de la nécessité d'essayer de trouver un accord entre les parties libyennes, ce qu'il avait commencé à faire et qui devait se conclure par cette organisation d'une grande conférence nationale au mois d'avril. Cette conférence a capoté du fait de l'offensive militaire de Haftar qui très clairement voyait dans cette conférence le risque que ses velléités de pouvoir ne soient pas pleinement satisfaites. Et maintenant, du fait de l'intervention d'un certain nombre d'acteurs extérieurs, la tâche des Nations Unies est également essayer de trouver un consensus entre les acteurs extérieurs. C'est la tâche que s'est fixée la diplomatie allemande au cours des derniers mois, essayant d'appuyer les Nations Unies, essayant de jouer un rôle de médiateur parce qu'elle est perçue comme plus neutre que par exemple la France ou l'Italie. Mais très clairement, on voit avec l'initiative russo-turque qui a un peu pris tout le monde de court au cours de la semaine dernière, que l'Union européenne et les Occidentaux en général se retrouvent maintenant en position de faiblesse et de marginalisation. Ils ont beaucoup de difficultés à se positionner et à avoir une influence sur les acteurs non seulement libyens, mais également sur les extérieurs qui maintenant jouent un rôle central. Ça s'explique par différentes choses. Un, parce que comme on l'a déjà noté au cours de l'émission, les divisions entre pays européens, les objectifs et stratégies concurrentes, on peut penser à la France et à l'Italie qui ont tenté de faire cavalier seul, mais aussi que l'Union européenne en tant que telle peut difficilement avoir une influence militaire sur le terrain et que cette incapacité à avoir une influence militaire sur le terrain n'est pas vraiment compensée par une capacité à jouer un rôle diplomatique fort. Il n'y a pas de stratégie claire. Et une grande difficulté de la part du haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère à formuler une politique qui soit vraiment cohérente et forte. On voit que depuis sa prise de fonction, M. Borrell est tente
Josep Borrell, donc l'Espagnol qui a remplacé Federica Mogherini et qui est donc le haut représentant, comme on dit, pour la politique extérieure de l'Union européenne. Avant de retourner vers vous, Virginie Colombier, une question à vous, Shoshana Fine. Je rappelle que vous êtes spécialiste des migrations aux séries. Vous nous disiez tout à l'heure à quel point c'est l'Union européenne qui finance les différents acteurs libyens dans cette confusion dont nous avons conscience maintenant depuis une quarantaine de minutes sur le terrain. Jusqu'à quel point est-ce que les enjeux migratoires qui pèsent sur des gouvernements démocratiquement élus, au sein de l'Union européenne, jusqu'à quel point ces enjeux migratoires peuvent-elles aider paradoxalement la Libye à stabiliser la situation, puisque c'est bien évidemment l'intérêt de l'Europe que la situation en Libye se stabilise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tellement d'acteurs étrangers, si j'ose dire, interviennent.
Je pense que ça stabilise pas du tout au Libye comme en Europe. C'est vraiment une vision très à court terme. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec la politique migratoire actuelle. Numéro un, on voit que le taux de mortalité a beaucoup augmenté depuis que l'Union européenne a investi en Libye. Donc, de plus en plus depuis 2017. Donc, on voit en 2017 que un migrant sur 38 environ a disparu dans la Méditerranée. En 2019, dans les premiers mois, janvier, février, mars, c'était un migrant sur trois. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, on peut pas parler d'une situation stable, mais plutôt l'Union européenne qui constitue une crise en Méditerranée. Et on voit aussi, c'est une politique extrêmement précaire avec beaucoup de conséquences.
Mais il n'y a pas que l'Union européenne. Il y a en particulier un représentant des Nations Unies pour les questions d'immigration qui, lui aussi, je lisais un entretien que M. Gandhi a donné il y a quelques semaines où il dit, mais au fond, oh, oui, ben, tout ça, il dit pas que ça s'arrange, ce serait d'un cynisme atroce. Mais il dit en gros que voilà, il faut stabiliser ces zones où, hélas, s'agglutinent, se concentrent des populations qui cherchent évidemment un avenir meilleur.
Je trouve que c'est extrêmement hypocrite de la part des organisations internationales comme le HCR, comme l'OIM et aussi des États membres qui à la fois condamnent, qui sanctionnent la Libye pour violer les droits humains. Par exemple, c'était très médiatisé cette histoire de l'esclavage il y a 2 ans. Pourtant, l'Union européenne aujourd'hui, parce qu'il y avait des images, mais ça continue. Non seulement ça continue, mais l'européenne finance de plus en plus avec l'aide des organisations internationales le renvoi de ces migrants en Libye, et là où on sait très bien que l'esclavage continue. Donc, pour moi, il y a une grande hypocrisie dans la politique migratoire. On peut pas parler d'une situation stable. On a un endiguement, mais avec quel coût?
Virginie Colombier, on arrive pratiquement à la conclusion provisoire de cette fresque libyenne où franchement l'impression de chaos et de contradiction domine, non seulement évidemment l'affrontement entre les acteurs locaux, mais aussi ces espèces d'alliances parfois à front renversé, ce condominium russo-turc qui veut s'affirmer comme étant capable d'aboutir à une solution négociée. Jusqu'à quel point, selon vous, cette entente russo-turque peut aboutir à des résultats?
Ça fait déjà un certain temps que les Russes affichent leur ambition de se positionner en médiateur, non seulement en Libye, mais dans d'autres crises de la région. On l'a vu, ils ont déjà expérimenté ce modèle, entre guillemets, en Syrie. La conférence d'Astana et le modèle d'Astana est ce qui est un peu présenté par les Russes comme leur grand point de référence. Très clairement.
Donc Astana, c'est donc le lieu des conférences sur la Syrie dont ont été exclus pratiquement les Occidentaux.
Voilà, cette sorte de formule de médiation qui là aussi a été chapeautée par les Russes, mais avec également un rôle pour les Turcs, dont les Occidentaux ont été en grande partie exclus, mais qui a aussi d'une certaine manière court-circuité le processus de médiation onusien. Les Russes considèrent que c'est une grande réussite et affichent l'ambition de répliquer un peu ce modèle dans d'autres crises et d'une certaine manière, même si le contexte est différent, en Libye. Très clairement, ils ont profité dans le contexte libyen de la grande faiblesse, marginalisation, mais aussi de la perte de crédibilité des acteurs européens et occidentaux. La Turquie s'est également engagée dans cette voie-là, profitant du fait que le gouvernement de Sarraj a été marginalisé et abandonné en quelque sorte par les Occidentaux, en dépit du fait qu'il était reconnu internationalement. Et donc, au cours des derniers mois, s'est positionné comme l'unique soutien de Sarraj, ce qui lui a donné une influence sur le gouvernement donc de Tripoli. Même chose pour les Russes qui pensaient qu'apportant un soutien direct militaire, en particulier à travers des mercenaires à l'opération de Haftar, leur donner une influence sur le terrain.
Comment expliquez-vous le mouvement de bascule français, puisque on se souvient que le maréchal Haftar a été reçu par Emmanuel Macron, je crois que c'était au mois de mai dernier, que Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, a dit qu'Haftar faisait évidemment partie de la solution, ce qui, évidemment, sur le terrain, semble faire sens. Mais pourquoi est-ce que la France semble, même si Emmanuel Macron répète que cette conférence de Berlin doit aboutir à des résultats équilibrés, c'est quoi? C'est la tentation de l'homme fort ou c'est en fait la prise de conscience que seul un homme fort peut stabiliser la situation?
Oui, je pense que c'est pas vraiment un mouvement de bascule. Disons que depuis maintenant plusieurs années, la France affirme qu'une solution militaire n'est pas possible en Libye et affirme soutenir le processus de médiation mené par les États-Unis. En réalité, sur le terrain, nous avons apporté un soutien clair militaire, un appui à Haftar et à ses forces, mais également largement contribué au passage ou à l'ascension de Haftar d'un responsable militaire à un responsable politique. Et les deux grandes réunions de la Seine-Saint-Cloud et l'autre dont j'oublie le nom à Paris au cours des deux étés précédents ont largement contribué à promouvoir Haftar durant d'un acteur militaire à un acteur politique.
Et on voit donc aujourd'hui à quel point la situation en Libye reste sur le terrain extrêmement tendue et à quel point aussi les différents acteurs régionaux et les grandes puissances ont des intérêts tantôt convergents, tantôt contradictoires. Donc merci à vous tous, vous étiez particulièrement nombreux dans cette émission ce matin. Je vous remercie de nous avoir éclairés. Merci à vous, Shoshana Fine, du CERI à Paris, spécialiste des questions migratoires. Vous avez écrit un ouvrage en anglais sur la politique turque aux éditions Palgrave en 2018. Merci à Nathalie Tocci, qui dirige l'Institut des Affaires Internationales à Rome, Ali Bensad, professeur à l'Institut français de géopolitique. Virginie Colombier, merci à vous. Vous enseignez à l'Institut universitaire européen de Florence. Sinan Ulgan, président du think tank EDAM, était avec nous par téléphone depuis Istanbul. Igor Jurgens, président de l'Institut du développement contemporain à Moscou. Je n'oublie personne. Merci à Mme Mostafavi de Courrier International, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. Ludovic Auger était à la technique. Hugo Boursier a préparé cette émission. Et maintenant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette et la politique. Bon week-end, à samedi prochain.